Le journal Claude Doucet.
La RDC à la recherche des garanties de paix réciproque avec l'Ouganda, question de donner leur chance aux opérations électorales en cours dans notre pays. Depuis hier, Azarias Rouberoy, en voyage au pays de Yoweri Museveni, discute de la question. Plus de 190 000 dollars américains détournés à la direction provinciale du ministère de l'Environnement dans le Bandundu. Le nouveau coordonnateur provincial de l'Environnement dénonce un réseau mafieux impliquant certains services des finances de l'État. En province orientale, nous allons parler de la manifestation de colère des opérateurs des saisies de Kisangani qui ont passé le test de la CEI mais n'ont pas été affectés comme promis. Bonsoir. La République démocratique du Congo veut obtenir de l'Ouganda l'abandon de tout soutien aux milices dans l'Ituri. C'est le but de la visite de Azarias Rouberoy, vice-président de la République, depuis hier à Kampala. La RDC promet quant à elle de s'investir pour désarmer et rapatrier les rebelles ougandais présents sur son territoire. On écoute Azarias Rouberoy, joint à Kampala par Georges Kamoudjov.
Les garanties doivent être mutuelles. Le gouvernement congolais offre de traquer ces groupes armés ougandais au point d'obtenir comme résultat leur désarmement et leur rapatriement. Nous avons besoin d'obtenir des garanties sérieuses de la part de l'Ouganda. Qu'aucun chef de la milice congolaise de l'Ituri ne sera soutenu par qui que ce soit de ce côté-ci. Cette garantie, c'est une obligation de résultat pour nous. De régler ces questions pour nous en vue du processus électoral et pour les pays en général en vue de la sécurité.
C'est pas pour la première fois que les voisins de la RDC et la RDC elle-même prennent des engagements pour ne plus soutenir des groupes armés.
Il y aura certainement un plus en termes d'engagement. Chaque pays a besoin d'être assuré par l'autre. Pour nous, franchement, le gouvernement n'apporte pas de ce qu'on alloue aux ADF. Maintenant, c'est leur présence qui inquiète les voisins. Il faut régler cette question. Et ne pas faire des sujets tabous pour que les uns ou les autres soient surpris.
Notons que les pillages sur les ressources de la République démocratique du Congo par l'Ouganda, qui ont été aussi, la question a été aussi évoquée au cours des entretiens du vice-président de la République avec les autorités ougandaises. La lèpre est en hausse dans la province du Katanga, une des régions les plus touchées d'Afrique. Ce qui est grave, c'est que certaines personnes atteintes de cette maladie ne le savent même pas. Le ministre de la Santé, accompagné de M. Sasakawa, ambassadeur humanitaire japonais auprès de l'OMS, ont fait le déplacement de Lubumbashi pour prendre acte de cette situation non moins calamiteuse. Jean Gandou.
Selon le responsable du programme national de l'élimination de la lèpre, le Katanga est la province la plus endémique de l'Afrique, avec une moyenne de prévalence de 4 cas pour 10 000 habitants. Les parties les plus touchées sont les districts de Tanganyika, du Haut Lomami, du Haut Katanga et de Lualaba. Les malades de ces différents districts ont déjà reçu de M. Yoweri Sasakawa le produit pharmaceutique pour faire face à cette maladie. L'ambassadeur humanitaire japonais répond ainsi à l'appel lancé par le ministère de la Santé de la RDC Congo. Cette apparition de la maladie au Katanga survient alors que celle-ci avait disparu du radar de contrôle de responsables provinciaux de la santé, le responsable provincial du programme national de l'élimination de la lèpre.
La lèpre reste un problème dans les milieux ruraux et que l'accessibilité dans ces milieux est en fait difficile. Et sans moyen de communication, on ne sait pas toujours y accéder pour les aider ou échanger les informations en rapport avec la lèpre.
L'ambassadeur humanitaire de l'OMS, principal donateur, estime pour sa part que cette maladie est curable.
Cette maladie est guérissable et facilement, actuellement, on peut guérir grâce au développement de la science.
La délégation ministérielle et l'ambassadeur humanitaire japonais ont visité hier mercredi le centre de la léproserie de Kapolowe. À Kapolowe, les malades reçoivent des soins ambulatoires. L'apport de l'ambassadeur Sasakawa permettra non seulement de soulager les malades, mais aussi d'accroître la lutte contre cette maladie. Soulignant enfin que le territoire des Moba bat cependant le record du Katanga avec 40 cas pour 10 000 habitants. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Dans la province de l'Équateur, situation difficile pour les militaires de la 39e brigade du camp Bokala, ce camp d'où est parti les pillages du début juillet dernier à Mbandaka. Ils sont 350, ces militaires, regroupés à l'aéroport depuis près de 3 semaines dans l'attente d'un voyage à destination des centres de brassage du Katanga. Les conditions de vie deviennent difficiles, autant pour eux que pour leur famille. Le point avec Dominique Wolombi.
Obligés d'évacuer les camps Bokala à la suite des pillages de juillet dernier, la troupe restante et l'état-major de la brigade ont été regroupés à l'aéroport. Les jours passent, l'avion annoncé par la hiérarchie militaire tarde à venir. Les conditions de vie de ces militaires, de leurs épouses et de leurs enfants deviennent de plus en plus difficiles. Officiers comme hommes des troupes vivent sous des tentes de fortune dressées à côté du tarmac sur une surface d'environ 100 mètres carrés. Ces abris ne leur permettaient pas de se protéger contre les intempéries en cette période de pluie. Les conditions sanitaires sont telles que l'eau commence déjà à enregistrer des cas de maladies respiratoires et d'origine hydrique, notamment parmi les enfants. Et pas de médicaments pour les soigner, indique l'officier chargé de la logistique. L'état-major de la 3e région militaire assiste impuissante à cette situation. De Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangé, Radio Okapi.
Province du Bandundu, le nouveau responsable provincial de l'environnement signale le détournement de plus de 190 000 dollars américains. Il s'agit de l'argent provenant des taxes versées par les exploitants de bois. Hubert Mundeke, c'est son nom, pointe du doigt un réseau composé de quelques agents de la division provinciale de l'environnement, de la Banque centrale au niveau de Bandundu et de la DGRAD provinciale. Ils auraient agi à partir de faux documents pour justifier un versement qui n'a jamais été effectué. Au micro de Jean-Claude Toumba Kamanga, Hubert Mundeke, le nouveau coordonnateur de l'environnement de la province de Bandundu, explique.
Les 191 858 dollars devraient en principe être versés à la banque. Mais investigation faite, j'ai écrit à la banque d'une façon officielle. La banque m'a répondu pour me dire qu'il ne reconnaissait pas cette situation. Il fallait que je me recours à la DGRAD. J'ai écrit à la DGRAD, ce n'était pas clair. J'ai demandé au gouverneur de province de m'autoriser de descendre un peu à Kin auprès des exploitants forestiers pour vérifier cette situation. Et de Kinshasa, sur quelques documents que j'ai récupérés, 16 bordereaux, la banque a confirmé que 4 bordereaux, une valeur de 2 415 840 francs congolais, tandis que les 12 autres étaient des faux documents dans lesquels on avait imité la signature du directeur de la banque, et même ils sont allés plus loin jusqu'à fabriquer un cachet parallèle de la trésorerie, ce qui fait que cet argent soit empoché entre certains éléments de la banque et de la DGRAD.
Contacté, le vice-gouverneur de la province et le responsable provincial de la Banque centrale du Bandundu confirment la nouvelle, mais ils disent attendre l'issue de l'enquête ouverte sur cette affaire. Province du Nord Kivu, une semaine après la nomination des nouveaux mandataires des entreprises publiques de l'État ou des entreprises de l'État, certaines coordinations laissées par le RCD à Goma ouvrent toujours leurs portes, alors que d'autres disparaissent d'elles-mêmes avec la nomination de leurs anciens responsables nommés plutôt dans les comités de gestion des entreprises ici dans la capitale. Pendant ce temps, le personnel n'est pas fixé sur son sort. L'état des lieux sur ses coordinations à Goma avec Jean-Paul Basila.
Les anciens coordonnateurs de l'OFIDA, de la SNEL et de l'OCC ont été nommés administrateurs ou membres des comités de gestion des entreprises qu'ils ont dirigées pendant la guerre. À Goma, certaines coordinations dont les responsables ne se sont pas retrouvés dans la nouvelle mise en place des mandataires ouvrent toujours les portes de leur bureau. Pour Tadé Moutoiré, ancien coordonnateur du Fonds des promotions de l'industrie FPI, on attend la remise et reprise.
C'est avec courage, c'est avec beaucoup de sérénité que nous avons accueilli cette décision-là. Nous attendons les instructions de la hiérarchie. Nous sommes en train d'apprêter les dossiers pour la remise et reprise. C'est seulement lorsque les nouvelles équipes entreront en fonction, elles pourront programmer maintenant les descentes au niveau des coordinations pour faire la remise et reprise. Mais en attendant que cela soit fait, nous sommes toujours opérationnels.
Pourtant, lors de son dernier séjour à Goma, le ministre des portefeuilles, Célestin Vunabandi, n'y est pas allé par quatre chemins. La nomination des nouveaux mandataires consacre automatiquement la disparition des coordinations.
Pour toutes ces entreprises où il y a eu mise en place, il y a une nomination des nouveaux mandataires, eh bien, les coordinations disparaissent. Et il reviendra donc au nouveau comité de gestion au conseil d'administration de prendre toutes les dispositions nécessaires pour prendre possession des espaces et des services qui étaient sous contrôle des coordinations.
Dans les coordinations encore ouvertes, un climat de méfiance règne entre agents et les coordonnateurs faisant fonction des Goma. Jean-Paul Basila, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, l'intervention de la police dans un point d'exploitation minière situé sur la rivière Sankuru a fait un mort parmi les plongeurs. L'association des exploitants artisanaux du diamant, ATECO, qui donne cette information, accuse la société K&C Mines d'être à la base de ces pertes en vie humaine. L'ATECO déplore que les autorités judiciaires de Mbujimayi aient permis la réquisition des policiers pour interdire une activité pourtant libéralisée depuis 1982. Chris Moukand retrace pour nous l'histoire de ce conflit minier.
40 policiers armés font irruption le vendredi dernier sur les chantiers de l'ATECO et font arrêter les travaux. Ils sont réquisitionnés par la société K&C Mines de M. Kachalantenda et Ngoï Kasangé. Dans la précipitation, pour dégager les dragues, quelques travailleurs tombent dans la rivière Sankuru. On réussit à repêcher un seul cadavre. Les autres sont portés disparus jusqu'à ce jour. Cette relation de fait est de M. Kang Kolongo. Il est président provincial de l'Association des exploitants artisanaux du diamant. Contacté par Radio Capi, l'administrateur général de KNC Mine, M. Kachalantenda, dit qu'il n'y a rien d'illégal dans cette situation. Selon lui, le permis que détient sa société lui confère un droit minier exclusif, différent d'une autorisation de prospection personnelle. Il explique que c'est en violation de la loi que toutes les associations de plongeurs et tenanciers de drague exploitent encore le carré minier de la Sankoro. Pour le moment, l'association des exploitants artisanaux du diamant dit avoir rompu toute négociation avec la société KNC Mine. Par ailleurs, il sollicite l'intervention de la MONUC pour une issue pacifique à ce dossier. Moujimaï, Chris Mukand, Radio Capi.
À Kisangani, les opérateurs de saisie nouvellement formés par la Commission électorale indépendante ont observé un sit-in ce mercredi devant le bureau de représentation de la CEI. Ils protestaient contre le fait qu'il n'ait pas été déployé dans le district de Ouélé comme cela était prévu. Faute de vacances dans les centres d'inscription, on dit, les membres de la CEI. Ces manifestants ont été dispersés par la police territoriale. Quelques-uns d'entre eux ont même été blessés. Reportage Jacques Mukonkoli.
Le mécontentement de ces opérateurs de saisie s'est traduit par un sit-in devant le bureau de représentation de la Commission électorale indépendante. Une manifestante explique le sens de leur revendication.
On nous avait dit que le voyage c'était pour les mardis à 7h30 au bureau de la CEI pour qu'on puisse partir. Nous avons déjà signé des documents là-bas à la CEI. Les étudiants ont sacrifié la session.
Ce qui est incompréhensible pour ces opérateurs, c'est d'avoir été formés et planifié leur déploiement, mais sans que cela ne se réalise. Selon eux, le responsable provincial de la CEI n'a pas bien coordonné le travail avec ses collaborateurs dans les centres de liaison du Siro et de Bouta. Allégation rejetée par les coordonnateurs, Jean Otemikongo Mandefou.
Nous avions pris soin d'informer les candidats qui étaient reçus dans nos centres. C'était sous réserve qu'il y ait des vacances à l'intérieur. Et ils n'ont pas voulu nous communiquer à temps quel effectif dont ils avaient besoin.
Pour n'avoir pas été déployés et surtout pour avoir gaspillé leur temps d'utile, ces opérateurs de saisie exigent réparation de la part de la CEI. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
De nouveau au Katanga, le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, est désormais présent à Kabalo depuis la semaine dernière. Cette présence prévue pour 6 mois va permettre à OCHA de récolter des données fiables sur la situation humanitaire de cette localité. Pour la coordinatrice de OCHA, Kalemi, Kabalo regorge des besoins humanitaires énormes. OCHA veut donc attirer l'attention des acteurs humanitaires sur ce territoire. Au Congo-Brazzaville voisin, le procureur près la cour criminelle a requis d'importantes peines contre les officiers poursuivis dans l'affaire des disparus du Beach. Il a également demandé un acquittement pour 8 accusés. Le plaidoyer des avocats des accusés a débuté hier mardi. Les avocats demandent à leur tour l'acquittement pur et simple de leurs clients pour manque des preuves. Le point sur le réquisitoire de la cour criminelle de Brazzaville avec Arsène Séverin.
10 ans de travaux forcés avec sursis contre le général Jean-François Ndenge, 9 ans fermes contre le général Adwa, directeur de la garde présidentielle, et contre le colonel Tsourou, directeur général du renseignement militaire. Pour 2 autres officiers, la peine de 7 ans a été requise. 2 hommes de main devraient être condamnés à 5 ans fermes de travaux forcés. Pendant 1h15, le procureur général a démontré la responsabilité pénale de ces officiers qui se seraient rendus coupables de crimes contre l'humanité à cause de leur négligence et de leur omission. La responsabilité civile de l'État a aussi été évoquée et le procureur général a sollicité de faire droit aux demandes des parties civiles. 8 accusés, dont le général Dabira, devaient être relâchés pour insuffisance de preuves. Les avocats des accusés ont rejeté ces réquisitions et demandent dans leur plaidoirie l'acquittement de leurs clients. Mais il faut encore attendre le jugement définitif de la Cour pour avoir le cœur net. Arsène Séverin, Brazzaville, Radio Capi.
La commission électorale de Guinée-Bissau a proclamé l'ancien dirigeant militaire João Bernardo Vieira vainqueur de l'élection présidentielle du 24 juillet dernier. La commission électorale bissau-guinéen a annoncé que Vieira a remporté 52,35% des suffrages après recomptage des bulletins à la demande de son adversaire malheureux, M. Malam, candidat du parti au pouvoir qui a obtenu 47% des voix. Les États-Unis de plus en plus présents dans le golfe de Guinée, Washington cherchant à se défaire de sa dépendance envers le pétrole du très instable Proche-Orient, se tourne vers l'Afrique de l'Ouest qui produit 4,5 millions de barils de brut léger. Un navire de garde-côte américain patrouille depuis un certain temps dans le golfe de Guinée. Il assure la surveillance des nouveaux intérêts stratégiques des États-Unis dans ce coin de l'Afrique où le boom pétrolier pourrait bien remplacer d'ici 10 ans les exportations pétrolières vers l'Amérique en provenance du golfe Persique. Le président Laurent Gbagbo a demandé aux Ivoiriens de ne pas entraver les activités des forces impartiales en Côte d'Ivoire. Il s'agit de ne pas entraver le travail des casques bleus et des soldats de l'opération militaire française de la Licorne. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens doivent certes rester vigilants, mais ils doivent savoir que les forces impartiales sont en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une mission précise, rappelait ce message de Laurent Gbagbo, message lu par le porte-parole de la présidence ivoirienne, Désiré Tagro. C'est ici que nous mettons un point final à cette édition, la première du soir du journal en français de ce mercredi. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Okapi. Okapi.